nous sommes connus il y a bien longtemps. Voilà quelqu'un qui a un peu changé.
Un récit de vie s'impose.
Un récit de vie. Je ne sais pas si ça peut... Non. Si c'est, comment dire, est plutôt dans la thèse de la continuité ou de l'épisode. En tout cas, ça s'est arrêté. Depuis un certain nombre d'années, ces ouvrages ont porté dans une direction qui est celle de notre cours de cette année, hein, vers des considérations sur le même et l'autre, sur la littérature et la morale. Et ce qu'il nous propose aujourd'hui, c'est une réflexion à partir de Germaine Tillon, les mémoires inachevées de Germaine Tillon, dont je vous rappelle simplement, avant de lui donner la parole, qu'elle est morte il y a moins d'un an et qu'elle était centenaire, je crois, centenaire, et qu'elle a été une grande ethnologue et une grande résistante liée au réseau du Musée de l'Homme, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Tsvetan Todorov a dirigé, il y a un an ou deux, un livre qui a porté sur elle, intitulé « Le siècle de Germaine Tillon ». À toi.
Oui, lorsque Antoine m'a proposé si gentiment d'intervenir dans son séminaire, j'ai eu une longue hésitation parce qu'en fait, depuis plusieurs années, en effet, je m'intéresse beaucoup à cette interaction entre la vie et le récit qu'on peut en faire. J'avais tout le temps envie de lever la main tout à l'heure en l'écoutant, mais j'ai compris que c'était mal vu dans ces circonstances, donc je ne l'ai pas fait. Mais il y a vraiment toutes sortes d'approches possibles. Mais j'ai choisi, donc, comme sujet d'intervention aujourd'hui, Germaine Tillon, qui est un exemple atypique et peut-être un peu marginal par rapport à ceux dont vous avez parlé ici les semaines précédentes, mais non moins intéressant. Si j'ai voulu parler d'elle, c'est parce que il se trouve que les circonstances ont fait que je suis devenu un proche de Germaine Tillon avant son décès, et que depuis qu'elle est morte, c'est-à-dire au mois d'avril 2008, nous avons, plusieurs d'autres personnes et moi-même, nous avons exploré un peu ses archives. Et nous nous sommes aperçus, enfin je me suis aperçu, je prends la responsabilité, je me suis aperçu qu'elle avait eu l'idée d'un récit de vie, d'un récit autobiographique qu'elle avait laissé de côté après l'avoir poussé assez loin. Et j'ai pensé que ce récit de vie était extrêmement intéressant et donc il va être publié cette année, dans deux mois, sous le titre de « Fragments de vie », car il s'agit bien de fragments, c'est un projet inachevé. Avant d'entrer dans quelques détails, j'évoque pour ceux qui ne le connaissent pas les grandes lignes de l'existence de Germaine Tillon. Antoine Compagnon vient de le faire, mais juste pour ajouter quelques mots. Donc, c'est une personne née en 1907. Elle était plus âgée que Lévi-Strauss, mais visiblement, cette profession préserve bien, d'une façon générale. Donc, 1907, elle suit diverses études à Paris au lendemain de la Première Guerre. Et en 1934, elle reçoit une bourse qui lui permet de partir dans l'Aurès algérien, où elle va rester avec des interruptions, mais quand même pendant presque 6 ans, jusqu'en 40. Donc elle se destine à la profession d'ethnologue. Et puis, elle rentre en juin 40, les premiers jours de juin 40, ce n'est pas n'importe quel moment de l'histoire de France, c'est donc la débâcle. Elle décide de s'engager immédiatement dans la résistance avant la fin de ce mois même. 2 ans plus tard, elle est arrêtée, elle passe 1 an en prison, ensuite elle est déportée pendant 2 ans à Ravensbrück. Elle revient donc vivante en 1945. Elle renonce pendant, elle pense-t-elle pour toujours, à l'ethnologie à ce moment, pour diverses raisons. Je reviendrai un peu là-dessus. Et elle devient historienne, historienne du passé immédiat, c'est-à-dire de la Deuxième Guerre mondiale, de la résistance, de la déportation. Et puis, en 1954, commence une autre guerre, la guerre d'Algérie. Germaine Tillion se trouve happée par les événements. On lui demande d'intervenir pour diverses raisons. Elle n'en sortira que plusieurs années plus tard, au moment où la guerre n'est pas terminée, mais commence à prendre une orientation qui sera finalement celle à laquelle elle aboutira en 1962. Entre-temps, donc, Germaine Tillion a été élue directeur d'études. Elle travaille au CNRS auparavant. Elle est élue directeur d'études à l'École des hautes études. Et c'est à partir de ce moment qu'au fond, elle vivra un peu moins et elle écrira un peu plus, puisque là aussi, il y a cette dichotomie dont tu nous avais parlé tout à l'heure. Et puis, cela continue avec des moments de plus intenses ou moins jusqu'à l'an 2008, quand elle est décédée. Je voudrais maintenant m'arrêter sur les moments qui préparent cette écriture de récit de vie pour voir d'où il est né. Elle est sortie donc de Ravensbrück en avril 1945. Elle part pour la Suède pour 3 mois. Enfin, elle part. Elle est envoyée en Suède, ainsi que toutes les autres femmes libérées en même temps qu'elle, et revient à Paris en juillet. C'est presque immédiatement qu'on lui demande de rédiger un texte sur Ravensbrück. C'est assez frappant, c'est un littéraire, en somme, qui va le lui demander. Il s'agit d'Albert Béguin, qui dirige à cette époque les Cahiers du Rhône et qui demandera qu'on en fasse l'analyse. Et c'est un volume collectif qui paraît en 1946, donc écrit en 1945, dont la première moitié est rédigée par Germaine Tillion, c'est un récit suivi, enfin, c'est un texte suivi, et la seconde est un ouvrage proprement collectif avec des brèves interventions d'autres femmes qui ont été déportées. Le texte spécifique de Germaine Tillion s'appelle « À la recherche de la vérité ». Et ce titre n'est pas indifférent, car il indique, d'une certaine façon, le refus du récit. À la recherche de la vérité, il s'agit d'établir une vérité objective, dans la mesure de ses possibilités, concernant l'expérience qu'elle vient de vivre. Plus tard, elle commentera ce travail en disant qu'elle a systématiquement cherché à éliminer toute trace de son propre vécu, car telles étaient les exigences de ce qu'elle avait appris à l'école, c'est-à-dire la sociologie, l'ethnologie. Le but était de surmonter la subjectivité. Il fallait, écrira-t-elle donc plus tard, produire un donner des renseignements scrupuleux et dépouillés de tout ce qui me semblait personnel. Mon excuse, ajoute-t-elle dans ce même commentaire, c'est que je voulais montrer ce qui avait été le lot de toutes et que je croyais pouvoir le faire en termes abstraits. Donc, elle décide d'appliquer la méthode ethnologique, qui fait partie de la sociologie, disons plus généralement, c'est la méthode de Mauss, de Marcel Mauss, dont elle a été la disciple, à un fragment de l'histoire immédiate. Je voudrais ici faire une digression courte pour attirer votre attention sur le fait qu'un tel geste, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, est tout à fait exceptionnel. Je veux dire qu'un spécialiste de sciences humaines et sociales utilise son propre vécu immédiat comme matière de son étude, qu'il l'intègre en somme à l'objet de son travail. Un jeune historien d'aujourd'hui, enfin jeune par rapport à moi, qui s'appelle Stéphane Audouin-Rouzeau, a consacré son dernier livre intitulé « Combattre » à cette question, notamment toute la première moitié du livre, dans laquelle il montre que les individus spécialistes des sciences sociales, dont on aurait pu s'attendre qu'ils nous livrent des analyses bouleversantes et ô combien révélatrices de leur expérience, ne l'ont jamais fait. Marcel Mauss lui-même participe, c'est un ardent patriote qui, malgré son âge, parvient à se faire mobiliser, à participer à la Première Guerre mondiale. Jamais dans son écriture, dans ses ouvrages postérieurs, n'apparaissent des traces de cette expérience. Quand il décrit les techniques du corps, il y a une technique qui en est absente de façon voyante, si on peut dire, et c'est justement les techniques de combat. Pourtant, le combat est certainement l'une des postures du corps les plus répandues qui soient. Son disciple Robert Hertz, qui périra au cours de la Première Guerre mondiale, aura eu le temps de faire des recherches alors qu'il est engagé comme soldat, mais sur quoi ? Nullement sur la vie dans les tranchées ou sur son propre vécu. Non, il s'intéresse au folklore des paysans de l'Est de la France parce qu'il se trouve qu'il est mobilisé dans l'Est. Et donc, juste avant d'être tué, il envoie des missives à Mauss, à sa femme, dans lesquelles il décrit ce folklore. Mais de son vécu, aucune trace. Norbert Elias, le grand sociologue allemand, qui a tant écrit sur le processus de civilisation, ne mentionne jamais le fait qu'il a été mobilisé pendant 4 ans et qu'il a vécu de près cette guerre. Bref, nombreux exemples pour voir que tel n'est presque jamais le cas. En fait, il y a en France une grande exception, et c'est celle de Marc Bloch. Marc Bloch, en effet, introduira son expérience de la Deuxième Guerre, cette fois-ci, dans l'ouvrage qu'il rédige à ce moment même. Mais c'est véritablement une exception. Il en va de même d'autres expériences marquantes du même genre. Pensez par exemple à Jean-Pierre Vernant, professeur, ancien professeur au Collège de France, qui était un grand résistant et qui a consacré sa vie à l'écriture, à l'étude, mais jamais à la résistance. Ou Louis Dumont, qui a passé la guerre dans un camp d'officiers prisonniers. ainsi de suite. Donc, Germaine Tillion, en prenant son expérience comme objet d'étude, fait déjà un peu exception dans ce groupe de spécialistes de sciences sociales et humaines. Mais elle écarte ce qui est strictement personnel. Il faut montrer le collectif et non pas l'individuel. Quelques mois plus tard, elle vit une autre expérience forte. C'est celle des procès des surveillants des camps de concentration et donc plus particulièrement de Ravensbrück. Germaine Tillion est élue par ses camarades pour assister à tous les procès. Elle est donc là et elle écoute et elle subit un nouveau choc. Ce choc est double, à vrai dire. Elle s'aperçoit d'abord que la justice est impuissante devant des crimes de cette ampleur, qu'en somme, les crimes totalitaires ne peuvent pas être jugés par une justice ordinaire parce que celle-ci ne tient compte que de la responsabilité individuelle, alors que là, c'est le régime lui-même qui est coupable. Mais du coup, elle se rend compte aussi que les victimes sont tellement nombreuses, elles se comptent, y compris dans ce camp particulier, qui n'est probablement pas le pire, certainement pas le pire, mais elles se comptent par milliers ou par dizaines de milliers. Or, étant donné les contraintes de la justice, on entend la voix de 10, 20, 30 femmes témoins. Et c'est à ce moment qu'elle découvre une valeur irréductible de l'expérience individuelle, et donc plus généralement de l'individu, devant laquelle la justice est impuissante. Nous savons, écrit-elle dans un compte-rendu qu'elle écrit immédiatement pour ses camarades de son expérience au procès, nous savons que chaque agonie a été individuelle, qu'elle a été personnellement le lot amer d'une seule femme, et c'est faux qu'on puisse, avec 10 crimes, en comprendre 100 000. C'est faux parce que quelque chose d'essentiel se perd au cours de ce processus inévitable de généralisation et d'abstraction des expériences individuelles, qui est propre à la justice, mais qui, à vrai dire, est propre aussi à l'histoire. Et donc, Germaine Tillion, qui s'est investie au retour des camps dans l'histoire, vit cette nouvelle expérience de façon également douloureuse. Parce que qu'est-ce que lui demande la méthode historique ? Elle lui demande certes de consigner les noms propres, mais essentiellement, elle lui demande de décrire un processus. Et dans ce processus, l'individu ne joue plus un rôle essentiel. On doit généraliser, on doit faire abstraction des variations individuelles pour dire la vérité d'un événement. C'est ce que Germaine Tillion appellera la réfraction historique, une réfraction qui fait perdre une part essentielle de l'expérience en question. L'année suivante, c'est-à-dire nous sommes maintenant en 1947, Germaine Tillion reçoit une lettre de l'Institut international situé à Londres qui avait financé les deux premières missions qu'elle avait accomplies en 1934-36 en Algérie. En effet, la guerre est passée et les comptables ou les dirigeants de l'Institut s'aperçoivent qu'ils avaient payé quelqu'un pour faire cette recherche dans les années 30, mais qu'ils ne savent rien des résultats de ces recherches, puisque la guerre étant survenue entre-temps, on a dû penser à autre chose, plus urgent. Et puis, ayant appris que Germain Tillon était toujours en vie, on lui écrit, on lui demande, est-ce que vous ne pourriez pas, cette fois-ci, nous rédiger un bon rapport scientifique dans lequel vous résumez les principaux résultats de votre recherche. Alors, Germain Tillon, donc, à ce moment, est dans un tout autre état d'esprit. Elle pense qu'elle a abandonné l'ethnologie pour jamais, à toujours. Elle pense au procès, etc. Mais, consciencieuse, elle se met à la tâche. Et elle découvre effectivement même un certain soulagement d'enjamber en quelque sorte cette expérience extrêmement douloureuse au cours de laquelle elle a perdu sa mère, elle a perdu plusieurs des personnes qui lui sont les plus proches, elle a elle-même atrocement souffert, et de se projeter donc, de retourner en esprit dans la période antérieure, infiniment plus belle, plus enrichissante à tout point de vue, qui était celle de ses missions en Algérie. Donc elle commence à écrire, et pourtant, avec un certain plaisir, et pourtant elle découvre un obstacle. Cet obstacle est lié, cette fois-ci, à la découverte que non seulement chaque individu est porteur d'une expérience que ni l'histoire ni la justice ne peuvent présenter de façon sans reste, de façon claire, de façon complète, mais qu'elle-même est un individu irréductible à tous les autres. Et que d'une certaine manière, sa tentative de mettre entre parenthèses son identité personnelle, loin d'être une contribution au perfectionnement de son étude, est un obstacle. Est un obstacle, et elle fait cette découverte parce qu'elle se rend compte que quand elle commence à écrire, quand elle commence à décrire ce que sont les Chaouïa, la population berbère au milieu de laquelle elle a vécu en cette partie de l'Algérie, elle doit se servir, bien entendu, de ses observations, transcrites plus ou moins bien, mais qu'en même temps, quelque chose de tout autre transforme sa vision de ce qu'elle a vécu 10 ans plus tôt, et cette chose tout autre, c'est Ravensbrück. Elle découvre que son expérience de la résistance et de la déportation, et beaucoup de la déportation, va transformer l'image qu'elle se faisait des Chaouïa, alors même qu'évidemment aucune nouvelle information sur les Chaouïa n'est intervenue entre 40 et 47. Mais c'est qu'elle-même, Germain Tillon, n'est plus la même personne ayant subi une expérience aussi violente. Donc, elle ne peut plus écrire ce rapport purement objectif qui lui semblait, et qui semble toujours aux membres de la profession, qui lui semblait être la norme du travail scientifique. Elle doit composer et écrire à la fois ce qu'elle a vécu, le décrire, pour expliquer pourquoi sa vision des Chaouïa a changé. Elle rédige un rapport donc, de 75 pages, elle l'envoie à l'International African Institute de Londres, Et puis elle l'oublie un peu puisqu'elle est lancée dans le travail d'histoire, mais quand même 3 mois plus tard, elle reçoit la réponse, on lui dit « Malheureusement, votre travail se présente sous une forme impubliable et inutilisable parce que, au lieu de présenter les résultats objectifs de votre recherche, vous racontez un peu trop votre vie. Nous comprenons qu'elle a été très éprouvante, mais enfin, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. » Alors, Germaine Tillion qui jette, en somme, les papiers dans un tiroir, et puis la vie continue, donc elle suit son travail historique, mais ensuite, elle est de nouveau envoyée, cette fois-ci, dans la guerre d'Algérie. Et là, une nouvelle expérience va la transformer de l'intérieur. Jusque-là, elle pouvait avoir l'impression qu'il y avait une sorte d'alternance entre travail scientifique et, en somme, militantisme. C'était ou l'un ou l'autre, ou étudier ou vivre. Mais immergée dans la guerre d'Algérie, c'est-à-dire dans la guerre qui sévit dans un pays qui a été son objet d'étude, elle se trouve amenée à produire une sorte d'interpénétration des deux, de se rendre compte, mais encore plus que dans le rapport qu'elle adressait à l'institution britannique, qu'il est impossible de tout à fait séparer les deux. En effet, elle est plongée donc dans une expérience très forte dans laquelle elle se reconnaît simultanément des deux côtés de la ligne du front, des deux côtés parce que elle est d'une part une ardente patriote et que ses camarades de combat sont devenus, pour bon nombre d'entre eux, je veux dire du combat de la résistance et de la Deuxième Guerre mondiale, sont devenus des militaires. Ils se trouvent diriger les unités parachutistes et autres qui gèrent justement l'occupation, enfin la guerre d'Algérie, la pacification en Algérie. Mais d'un autre côté, elle est si proche, elle se reconnaît à un tel point dans la population algérienne, et plus encore dans ceux qui combattent la force d'occupation, donc dans les terroristes, qu'elle ne peut pas ne pas penser qu'elle était, 10 ans plus tôt, une terroriste, et que donc elle est de deux côtés. Pendant 5 ans, dit-elle, j'ai révéré le terroriste et haï le bourreau. Alors, comment agir maintenant? C'est cette transformation ultime qui va déboucher sur le travail que je vous ai annoncé en commençant. En effet, rentrant en France, donc elle rentre d'abord en 56, en 57 elle y retourne dans d'autres circonstances, en 58 aussi, mais c'est en 58 surtout que se produit ce double événement qui est son élection comme directeur d'études et d'autre part l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir, ce qui pour elle d'une certaine façon annonce une possibilité de sortir du conflit. Donc, elle peut revenir à ses chères études. Mais ses chères études, c'est maintenant de nouveau, et c'est elle qui l'a décidé, c'est de nouveau l'ethnologie. Alors que de 1945 à 1954, elle s'était faite historienne, sa chaire à l'école de hautes études 6e section, comme on disait à l'époque, s'intitule « Sociologie africaine » ou « Maghrébine ». C'est à ce moment qu'elle décide de rédiger un livre. Un livre qui explique pourquoi on ne peut pas faire des sciences humaines de la manière dont on les fait autour d'elles. Elle décide que ce livre comportera deux grandes parties. Dans la première, elle racontera son expérience des années 30. Dans la seconde, elle racontera son vécu de la guerre, de la résistance, de la déportation. Et l'introduction de ce livre, qui a été préservé, s'intitule « Le double apprentissage ». C'est ce double apprentissage d'une population qu'elle étudie, qui consiste d'une part dans une accumulation d'informations et de données, mais d'autre part dans une transformation de l'identité de celui qui connaît. Son travail est entièrement orienté dans cette direction dans les années 60, 61 à 64. On en garde quelques traces, peu nombreuses, mais néanmoins révélatrices. Par exemple, son éditrice américaine, Blanche Knopf, des éditions Knopf, lui écrit en lui rappelant que dès la fin de 59, elle avait entendu parler d'un projet en cours d'exécution portant le titre de « Apprentissage des sciences humaines ». Quelques années plus tard, elle l'interroge de nouveau sur son livre en cours qu'elle appelle maintenant « Vos mémoires ». Elle y revient en 63, encore deux ans plus tard. Où en sont votre écriture et vos mémoires? Et quelques remarques dans les manuscrits de Germaine Tillion, que donc j'ai découvert cet automne, permettent de répondre à cette question. La partie concernant la période algérienne, elle reprend donc en grande ligne le mémoire écrit en 47-48, mais elle le transforme, elle le complète, mais cela va relativement plus facilement, en 61-62. Cependant, dit-elle, j'ai encore buté plusieurs années sur la seconde partie, dont cependant je ne pouvais consentir l'omission. Toutefois, en 63, on trouve nouveau manuscrit intitulé « Seconde partie, connaissance d'une guerre ». Y figure un récit suivi de sa résistance. Et puis figure aussi cette introduction générale qui théorise ce double apprentissage. Il y a quelque chose de radical dans ce projet. Tillion veut toujours, comme elle le dit, comprendre la nature humaine, mais elle en a à ce moment-là une image plus complexe qu'avant, puisqu'elle inclut des attitudes d'abnégation totale de la part de certains, comme de réjouissance sadique de la part d'autres, autant d'attitudes dont elle ignorait tout précédemment. Au lieu de se ranger à l'opinion des directeurs de l'African Institute, elle décide d'approfondir et de systématiser ses premières intuitions. Mais du coup, il s'agit d'une véritable révolution dans la manière de pratiquer les sciences humaines, ou même plus généralement, la connaissance de l'humain. L'idée de base de Germaine Tillion est qu'il est vain dans ce domaine d'aspirer à la pure objectivité. Pour comprendre les autres, nous faisons appel toujours et nécessairement à notre sensibilité subjective. Les sciences humaines, telles qu'elles sont alors pratiquées, s'égarent, vont dans une impasse. Et Germaine Tillon écrit ces phrases fortes, mais qu'elle ne publie pas. « Je tiens à signaler que les rapports scientifiques, c'est-à-dire basés sur l'observation des autres, sont faux et factices. Pour connaître une population, il faut à la fois la vivre et la regarder. C'est pourquoi ceux qui vivent doivent apprendre à regarder, ou ceux qui regardent doivent apprendre à vivre, au choix. » On ne doit donc pas confondre information et connaissance. L'information résulte d'un empilement de savoirs indifférents, alors que la connaissance est une interaction entre les informations et le sujet individuel qui les absorbe. Interaction dont tous les deux sortent transformé. Le sujet est devenu autre, les informations sont devenues sens. Tillon compare le savoir objectif aux partitions musicales et l'expérience vécue individuelle à la maîtrise de la gamme. Elle écrit « Toute la mécanique de notre érudition ressemble aux notes écrites d'une partition musicale. Et notre expérience d'être humain, c'est la gamme sonore sans laquelle la partition restera morte. Combien y a-t-il d'historiens, de psychologues, d'ethnologues, les spécialistes de l'homme, qui, lorsqu'ils assemblent leurs fiches, ressemblent à un sourd de naissance copiant les dièses et les bémols d'une sonate. Mais si nous ne connaissons les autres qu'à travers ce que nous sommes, la manière même de procéder en sciences humaines doit changer et lier constamment collecte d'informations et vécu personnel en procédant à ce double apprentissage dont elle nous parle. C'est bien pourquoi elle juge que la connaissance d'une guerre, titre de la deuxième partie, est décisive pour son travail d'ethnologue. La dernière date mentionnée dans ces manuscrits est de mars 64, et c'est l'année, plus tard dans l'année, où Germaine Tillon se tourne vers ce qui sera son premier grand livre d'ethnologie, intitulé « Le harem et les cousins » sur la condition des femmes dans la région méditerranéenne, qu'elle publiera 2 ans plus tard. Donc, elle y renonce à ce projet, à son projet de transformer de fond en comble les sciences humaines. Pourquoi le fait-elle? On ne peut pas le savoir, mais on peut le supposer. Je pense que l'une des raisons, c'est que là, et je peux en témoigner personnellement, à partir de 1963, ce n'était pas du tout, mais du tout, la tonalité dominante des sciences humaines et sociales en France. C'était bien au contraire l'époque du structuralisme, peut-être pas encore triomphant, mais en tout cas avançant à grands pas, où on rêvait d'une mathématisation plus poussée du savoir concernant les sociétés ou les êtres humains. Donc, je m'imagine que face à la tâche vraiment redoutable qu'eût été la contestation de toute la méthodologie des sciences humaines de son temps, Germaine Tillon a préféré jeter son manuscrit inachevé dans un tiroir et continuer à faire comme si. Faire comme si, mais pas tout à fait. En effet, quelques années plus tard, très peu de temps plus tard, elle va écrire une nouvelle version de son Ravensbrück. Elle paraîtra cette nouvelle version en 73, mais c'est plusieurs années plus tôt qu'elle a commencé à la rédiger. Et le changement par rapport à la version 1946 est en effet radical. Radical car d'emblée, elle annonce un point de vue tout à fait différent. Je sais, dit-elle maintenant, dès l'introduction, combien reste obscur un témoignage grave qui ne comporte pas d'explication sur celui qui témoigne, et combien sont solidaires nos pensées, nos actions, les événements de notre vie, avec cette vision du monde que de tout cela, chacun d'entre nous retient. Et dans cet esprit, elle insère, dès son introduction, un récit de son propre emprisonnement, de sa propre déportation, ainsi que celle, beaucoup plus douloureuse pour elle, de sa mère, qui périra au camp, et envers qui elle se considère comme responsable. Tout au long de l'ouvrage, elle mélange librement données matérielles objectives, chiffres, dates, noms propres et vécu personnel. Elle revient sur ce thème de l'interpénétration des éléments subjectifs et objectifs dans un chapitre de conclusion intitulé « Engagement et impartialité ». Elle y écrit « Il restera naturellement au parti pris le domaine des interprétations d'où il est difficile de le débusquer, mais inversement, l'absence totale de participation affective à un événement est un élément d'incompréhension quasi radical. Entre le parti pris et l'incompréhension, la porte est étroite, mais cette étroitesse fait partie des données du problème historique et même tout court du problème humain. Le risque est donc certain. Il ne s'agit ni de s'illusionner dans l'objectivité pure, ni de se laisser aller à donner libre cours à ses partis pris. Sentier étroit, porte étroite entre les deux, mais qui est celle-là même, la seule, des sciences humaines. Et elle conclut, « Vivre et agir sans parti pris, ce n'est pas concevable. La vie n'est qu'option, et moins celles-ci sont évidentes, plus elles nous égarent. » Je voudrais terminer ici parce que je voudrais que reste quelques minutes pour qu'Antoine me dise à quoi tout cela le fait penser. Je voudrais juste terminer en rappelant que dans les dernières années de sa vie, Germain Tillon a pratiqué une autre forme de fusion des deux, de la connaissance objective et de récit de vie, qu'ont été les entretiens. Elle en a produit un très grand nombre. Mais le regret lui est toujours resté. Et dans ce qui est probablement le tout dernier grand entretien qu'elle a donné en 2002, donc elle a 95 ans, elle écrit, enfin non, elle dit, « J'aime beaucoup que les gens parlent aussi d'eux quand ils vous parlent. Quand je lis les livres des autres, ce que j'aime le plus, c'est ce qu'ils disent directement sur eux-mêmes. Plus ils le disent directement, plus je trouve que ça me touche. Or, à propos de Ravensbrück, j'ai fait attention à parler le moins possible de moi. Donc, j'ai fait exactement le contraire de ce que j'apprécie. » Et la raison de cette mise à l'écart est indiquée aussitôt après. Je l'ai fait par pudeur, je pense que c'est par réserve naturelle et un peu parce que je me disais les autres aussi.
Merci beaucoup, Svetan, pour cette contribution à notre réflexion qui est entre en plein dans un certain nombre de choses que nous avons parcourues, qui fait écho avec beaucoup de choses qui ont été dites. On attend impatiemment cette publication. Je ne savais pas que c'était parce qu'il y avait cette publication à venir que tu avais choisi ce sujet plutôt qu'un autre, puisqu'il y avait en effet beaucoup de sujets possibles pour toi dans ce cadre. Par rapport à ce que tu disais au début là, de l'absence de travaux de sociologues ou d'ethnologues qui portent sur leur propre expérience, je pensais à l'ouvrage que je crois que je ne me souviens plus si j'ai eu le temps de l'évoquer le premier jour de ce séminaire où j'ai parlé moi-même, qui est l'ouvrage de Norton Cruz sur la espèce de livre auquel on renvoie toujours sur le témoignage, enfin, qui est l'espèce de enfin, voilà un poilu, enfin un soldat de la guerre de 14, qui fait l'enquête scientifique objective sur tous les récits de témoignages de cet événement, avec les conséquences que l'on connaît. C'est-à-dire que ce livre suscite immédiatement la polémique et, d'une certaine façon, l'interdit sur le type d'enquête dont tu dis qu'elle n'a pas ou lieu ou qu'elle est rare, n'est-ce pas? Il y a bien une sorte de, enfin, on ne peut pas dire de péché originel, mais d'interdit qui est lié au livre, puisque au fond, tout cela commence quand même avec les récits de la guerre de 14, toute cette réflexion sur le témoignage. Ça commence avec les récits de la guerre de 14, et pour la guerre de 14, eh bien, on a le livre qui est celui de... Bon, c'est un littéraire, mais il enquête en ethnologue ou en sociologue sur toute cette littérature de témoignages pour la démystifier. Je sais pas, j'ai tendance à penser que c'est pas indifférent dans l'absence d'enquêtes de sociologues, de Mauss ou d'autres sur leur propre expérience.
Sans doute, ce qui est frappant, c'est que c'était des sociologues et des ethnologues chevronnés qui auraient pu se dire quelle merveilleuse occasion d'étudier le comportement humain de ce type-là en cette circonstance. Mais pour moi, l'élément le plus intéressant n'est donc pas que Germain Tillon fait partie de ces personnalités peu nombreuses qui vont inclure finalement cette expérience, mais qu'elle admettra que cette expérience va transformer la manière dont elle fait tout son travail. Et en cela, elle est différente, y compris de Marc Bloch ou de Daniel Cordier, qui plus tard aura également fait ce genre de travail sur la Deuxième Guerre mondiale, d'anciens résistants, et qui produit un travail d'historien. Mais là, c'est l'expérience elle-même qui décide de la manière dont on va le faire. Elle met en jeu son identité, sa continuité, pour parler dans les termes que tu employais à l'instant, de façon radicale, alors que, disons, les autres, ma foi, ils étaient ethnologues. Mauss était ethnologue avant, il est ethnologue après. Rien n'indique que la guerre lui a appris une autre façon de pratiquer la science humaine, ce qu'il faisait.
Alors, ça nous renvoie directement à l'autre question que je voulais te poser, qui porte sur ce double apprentissage. Parce que chez les ethnologues français, on a souvent rencontré cette tendance à écrire deux livres. Le livre scientifique et le récit de vie. Lévi-Strauss, hein, structures élémentaires de la parenté et Triste tropique, l'Afrique fantôme, et puis le livre dont j'ai oublié le nom, qui est le mémoire de Léris. Ce double apprentissage, ce qu'elle cherche à faire, c'est à surmonter cette division que tant d'autres ont pratiquée. Parce que quand on lit l'Afrique fantôme, c'est un témoignage d'une transformation par l'enquête. Mais elle ne passe pas dans l'ouvrage que Léris écrit par ailleurs. Et on peut dire de la même façon que ce qui se produit dans Triste tropique n'apparaît pas dans les structures alimentaires de la parenté ou dans les mythologiques.
Alors, oui, voilà. Surtout dans les mythologiques, les structures élémentaires précèdent, mais on chercherait en vain, non pas des effets de ce qu'il a vécu, bien entendu, son vécu d'ethnologue détermine d'une certaine façon, évidemment, ce qu'il va nous dire des Indiens d'Amérique, mais on chercherait en vain dans les mythologiques des éléments de ce genre. Donc les deux voies, c'est un peu comme, alors dans un autre registre, Rilke disait quand il parlait de Rodin, pour décrire les deux lits du fleuve, le lit de la création et le lit de la vie, et qui ne se croisaient jamais, et qui me semble être une vision romantique souvent réitérée entre ces deux, pour marquer cette séparation. Alors que tout l'objectif de Germain Tillon serait de les faire fusionner, de montrer que le vécu va influencer le vécu du camp, les gestes d'entraide ou de violence vont influencer ce qu'elle a vécu 10 ans plus tôt au milieu des paisibles paysans berbères. Et c'est en cela, je pense, que c'est révolutionnaire d'une certaine façon, et qu'effectivement, si elle avait vraiment pu produire ce brûlot, cela aurait pu influencer les sciences humaines de façon très forte. Je pense que ce message est beaucoup plus audible en 2009 qu'en 1964.
Mais si on pense aux ethnologues non français, britanniques ou américains, ils faisaient déjà ça dans les années 50, 60. Donc c'est, d'une certaine façon, ça existait. Malinowski fait un livre où la subjectivité est présente, l'expérience, le vécu est présent, beaucoup plus que dans les livres français. Alors.
Oui, mais plutôt au sens, je dirais, de Marc Bloch, c'est-à-dire d'intégrer l'expérience, plutôt que de montrer en quoi cela transforme la méthode même. Donc, il y a de nouveau quelque chose de plus poussé dans cette expérience-là. Mais je pense que la chose est effectivement devenue un thème de réflexion et de débat depuis une vingtaine d'années, disons.
Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis de Malinowski, ça ne transforme pas la méthode, mais la méthode en prend compte quand même de cette présence. Mais c'est vrai que c'est devenu le sujet de toute la réflexion de la sociologie.